constitutionnelle. Bonsoir. La Cour constitutionnelle a prononcé hier, mercredi, tous les 178 arrêts relatifs à la rectification d'erreurs matérielles contenues dans les arrêts d'invalidation de certains députés élus provisoirement. Ainsi sont par exemple validés à nouveau Chérubin Okende, Daniel Safou et Jean-Claude Kibala, tous de l'opposition. Jean Goubal Kalala de Kinshasa lui a vu son invalidation confirmée par la chambre spéciale au profit de Pierre Kangoudia du FCC. La liste définitive de 500 députés est annoncée ce jeudi donc. Quelle lecture faire de ces nouveaux arrêts de la haute cour? C'est la question au débat ce soir. Et pour en parler, nous serons avec Yves Kitumba, cadre du MLC et porte-parole de la coordination provinciale de la plateforme Lamouka à Kinshasa. Yves Kitumba, bonsoir.
Bonsoir.
Et Ferdinand Kambere, qui devrait nous rejoindre dans ce studio. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, principal parti de la plateforme de l'ancien président Joseph Kabila. Et enfin, Willy Wenga, avocat près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Willy Wenga, bonsoir.
Bonjour.
Merci et à tous donc, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Enfin, peut-être le dénouement du feuilleton des invalidations contestées des députés en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a prononcé hier tous les arrêts relatifs à la rectification d'erreurs matérielles contenues dans les arrêts d'invalidation de certains députés élus provisoirement. Ainsi donc, par exemple, sont validés à nouveau Chérubin Okende, Daniel Safou et Jean-Claude Kibala, tous de l'opposition, alors que d'un autre côté, Jean Goubal Kalala de Kinshasa, lui, a vu son invalidation confirmée par la Chambre spéciale au profit de Pierre Kangoudia du FCC. Une liste définitive des députés reste toujours attendue. Ce jeudi, Jeff Ngoy nous donne les détails.
Sur 178 dossiers en réexamen d'erreurs matérielles, une trentaine de dossiers ont trouvé gain de cause. Mais seulement 10 députés de l'opposition ont été repêchés. Ce qui n'enchante pas l'élu de Lamouka, Dieudonné Bolenge Tengue, qui conserve tout de même son siège.
Cette cour-là n'est pas sérieuse du tout. Comment elle peut se permettre de prononcer des arrêts et deux semaines, trois semaines après, les renier aussi grand nombre? Tout esprit rationnel est censé s'étonner devant cette inconstance de la plus haute juridiction du pays.
L'artiste et musicien Jean Goubal Kalala, réinvalidé, ne décolère pas.
En fait, je n'ai vraiment plus envie de parler de ces histoires de cours et ces histoires de corruption. J'aimerais me libérer la pensée et revivre le bien, revivre le bonheur.
Ça a affecté votre morale?
Ça m'avait touché, oui, mais je suis déjà préparé à vivre avec un Congolais malade dans l'âme.
Chérubin Okende, Néron Bungu, Daniel Safou, pour ne citer que ceux-là, peuvent siéger à l'Assemblée nationale. Mais le travail des juges constitutionnels reste décrié. La Chambre unique n'a pas réussi à éteindre le feu de la maison qui brûlait.
Yves Kitumba, cadre du MLC, porte-parole de la coordination provinciale de la plateforme Lamouka à Kinshasa. Yves Kitumba, vous êtes vous-même et votre famille politique enfin apaisée par ce nouvel examen de la Cour constitutionnelle. La faute, peut-on en ce moment dire, enfin réparée selon vous?
Pas du tout, parce que vous savez que ce que la Cour vient de faire, c'est une honte pour la République. Imaginez, comme je disais la fois passée, les élections n'ont jamais été compilées. Il n'y a jamais eu des PV, des centres de compilation locaux de résultats. Par quel mécanisme la Cour a invalidé les députés et par quel mécanisme encore il a révalidé? Donc c'est une honte. Je crois qu'il y a des motivations politiques, surtout en ce qui concerne notre parti politique. Il y a un acharnement de certains cadres du pouvoir qui veulent tout à fait détruire la machine politique MLC. Les 8 députés invalidés, on a essayé de repêcher 3. Mais pour nous, c'est une honte. Dans un pays comme le nôtre, dans un pays qui est censé décoller, dans un pays où nous devons donner la chance à l'avenir, comment nous pouvons nous comporter de la sorte? Une cour totalement corrompue.
Mais Yves Kitumba, est-ce que ce n'est pas un peu ce que vous aviez demandé? C'est-à-dire que la cour puisse réexaminer ou expliquer les raisons de ces invalidations?
Non, vous savez que nous nous contestons les élections, depuis la présidentielle jusqu'aux législatives nationales et provinciales.
Quand vous dites vous, c'est le MLC ou c'est la MUCA de
la MUCA et MLC. Ici, je parle au nom de la MUCA et MLC.
Même si on sait que depuis un moment, il y a un document qui circule, de sortie de crise, etc.
Ben, écoutez, là, je viendrai expliquer autre
tout à fait.
Autre
pas ça
aujourd'hui.
Voilà,
aujourd'hui, je parle de la cour. Mmh. Cette cour, c'est une cour de la honte. Et c'est une cour qui a désorienté les Congolais. Aujourd'hui, quel est le Congolais qui peut encore donner crédit à cette cour? Nous disons une cour caporalisée, d'abord. Une cour qui est tout à fait instrumentalisée, inféodée, pour apporter des réponses politiques. C'est une cour qui réagit, qui apporte des arrêts politiques au lieu des arrêts juridiques. Et nous doutons, lorsque nous voyons des juges caporalisés, nous doutons maintenant de l'expertise juridique. Nous disons, mais c'est quoi ce problème? Un pays, la plus haute juridiction, qui est censée apporter le droit, qui est censée apporter la justice, se discrédite de cette manière. Pour nous, valider, invalider ou pas, la cour est discréditée. Et nous ne croyons pas. Techniquement, je ne parlerai pas de politique, bien que ce soit des motivations politiques, ces invalidations, je parlais plus techniquement. Techniquement, comment la Cour a procédé pour révalider? D'abord, invalider et puis révalider. Elle a procédé comment, là, cette Cour?
Selon vous, elle aurait procédé comment?
Ah, techniquement, d'après la loi, le législateur a prévu, dit, ben, lorsqu'il y a contradiction de chiffres, le juge, bien entendu, il peut recourir au recomptage. Ce que nous avons demandé même à la présidentielle. Les erreurs matérielles dont la Cour aujourd'hui, après avoir rencontré M. Tshisekedi, les présidents de la Cour rencontrent M. Tshisekedi, viennent réparer des erreurs matérielles. On pouvait le faire aussi à la présidentielle. Donc, et les élections chaotiques, et la Cour posent de problèmes aux Congolais. C'est pourquoi nous proposons une réforme totale de la chaîne du processus électoral.
Concrètement,
la Cour et la CENI doit revenir confession religieuse et la Cour constitutionnelle, on doit nommer des juges intègres, nous le répétons, pour qu'enfin nous ayons des élections transparentes, pour qu'enfin nous ayons des élections qui ne seront pas contestées. Nous vivons dans une période de contestation totale.
On ferait quoi concrètement? On est à 6 mois d'une mandature qui est en cours. On ferait quoi si on devrait appliquer votre idée?
Quand vous dites mandature, vous savez bien que M. Tshisekedi a accédé de manière frauduleuse.
Je veux revenir
pour dire, c'est cette proposition-là de sortie des crises de légitimité qui va nous amener aux nouvelles élections qui seront crédibles et les résultats seront opposables à tous. De manière transparente, c'est-à-dire on réforme la CENI, on reforme la Cour constitutionnelle, on reforme les secteurs de la défense et de la gouvernance, et nous avons des personnalités crédibles, nous réorganisons les élections dans une période de 12 à 18 mois, nous réorganisons les élections et les résultats seront acceptés par tous, que le meilleur gagne.
Yves Kitumba, vous êtes déjà là un peu dans les propositions pour justement améliorer cet état de choses, nous y reviendrons, mais tout à l'heure vous reveniez sur le fait que sur les 8 invalidés du MLC, il y en a 3 qui ont été repêchés. Est-ce que ça constitue, en attendant qu'on applique le schéma dont vous allez nous donner des explications tout à l'heure, est-ce que ça vous soulage un peu quand même?
Pas du tout. Je dis ça ne nous soulage pas. En réalité, nous ne savons pas de quelle manière ils ont été invalidés le 8 et de laquelle manière on a repêché 3. Techniquement, il n'y a pas d'explication.
Merci.
Donc nous disons simplement que c'est de l'acharnement politique et bon, pour sauver le meuble, on dit bon, récupère un peu 3 là, sans procédure, sans quoi que ce soit.
Merci, nous reviendrons à vous tout à l'heure. Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, nous a rejoint entre-temps dans ce studio. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, votre analyse de ces nouvelles actions de la Haute Cour, vous avez entendu déjà le point de vue du MLC et de la MUCA, représenté ici par Yves Kitumba.
Merci beaucoup. Je dois saluer mon co-débatteur qui est sur la même table que moi. Quand je suis les débats de la Mouka ou MLC ou quoi que ce soit, je suis simplement étonné. Tout ça rentre dans un processus électoral qui a commencé avec la CENI. La CENI constitutionnellement qui a le pouvoir de donner les résultats provisoires. Ceux qui les contestent, parce que les résultats qui sont donnés par la CENI, ceux qui les contestent vont à la Cour. La Cour rend les arrêts, donc dit le droit, parce que c'est la Cour qui va proclamer les résultats finalement définitifs, que tout le monde va suivre. Et on profite d'une ouverture qui est donnée par la Constitution, où quelqu'un qui croit qu'une telle décision de la justice contient une erreur matérielle, qu'on ait ouvert une autre chambre pour examiner ces erreurs, et qu'on récupère certains. Je suis étonné. Alors que j'ai suivi des félicitations depuis le matin, depuis hier d'ailleurs, de ceux-là qui ont eu gain de cause, de suivre qu'on est en train, on ne sait pas par quelle magie ou par quel mécanisme, alors qu'il y a eu d'abord un.
Il y a eu des requêtes. Oui, il insiste qu'ils ne comprennent pas par quelle stratégie la Cour.
Mais il ne dit pas pourquoi, parce qu'il y a eu des requêtes,
oui.
Il y a eu des audiences, les avocats ont plaidé, n'est-ce pas? Et que donc, les juges ont dit à examiner le bien fondé de l'existence de ces erreurs ou pas. Et qu'aujourd'hui, la Cour est entrée de répondre que les uns aient raison ou aient trouvé qu'à leur faveur, des arrêts ont été rectifiés.
Alors, Ferdinand Kambéré, soulignons que l'intitulé du travail que devrait faire la Cour constitutionnelle pour ce cas ici, c'était la rectification d'erreurs matérielles. Et tout en n'étant pas juriste, mais en ayant lu ce que tout ce concept voulait dire, ça voulait tout simplement dire que c'est des erreurs qui ressembleraient à des coquilles, des noms mal orthographiés, des choses comme ça qui devraient être révisées, mais pas le fond. Du verdict qui, lui, valide ou invalide un député. Est-ce que cette chambre spéciale a la prérogative de qualifier que quelqu'un qui a été discrédité, invalidé, finalement redevienne validé, ou qu'un autre qui n'a même pas été élu, le moment venu, se retrouve finalement élu officiellement?
C'est l'œuvre du juge. Si par principe, lorsque un juge est saisi pour sa propre décision de corriger une erreur matérielle et que celui-ci arrive à corriger jusqu'au fond, ici on doit pouvoir distinguer. Nous sommes dans un processus électoral et le juge électoral, c'est un juge de sincérité. Il est différent du juge du droit commun. Parce que vous voyez certains, quand ils font la comparaison, ils vous disent la maison était sur quel avenir et le juge a attribué cette maison à quelqu'un d'autre qui n'était pas au procès. Ici, on est devant un juge de sincérité, de scrutin, qui se comporte, qui a un comportement autre que celui du juge du droit commun.
Donc, selon
Je
vous,
suis d'ailleurs heureux lorsqu'il est en train de parler de réforme de toute la chaîne du processus électoral. Ça doit être vu par tout le monde de la même façon. Mais c'est si on arrive à telle conclusion, après quoi? Parce qu'on a expérimenté l'élection de 2006, on a expérimenté les élections à 2011 et maintenant à 2018. Certainement que de plus en plus, on est en train de s'armer et d'avoir plus d'expérience. Lire les lois, c'est là qu'il faut aller. On parle plus d'individus ici, on va chercher des anges et tout ça.
Alors,
mais si certains aspects de la loi mettent que, par exemple, dans d'autres pays, par exemple, la Cour, pour avoir plus de facilité de suivre tous les processus, la Cour suit à partir de la campagne.
Alors, Ferdinand Kambéré, donc on comprend que pour vous, il n'y a pas irrégularité. Si la Haute Cour est allée jusqu'à revoir le fond des problèmes qui a été posé, mais voici une question qui concerne particulièrement votre statut en tant que représentant du PPRD. Dans ce feuilleton des invalidations des députés, le FCC, mais surtout le PPRD, a beaucoup été tenu pour responsable. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi et considérer comment?
Responsable en quoi?
Parce qu'on constate par exemple que une grande partie des députés qui entrent en scène, qui sont validés au profit de ceux qui sont invalidés, sont un peu du FCC ou du PPRD.
C'est toujours un schéma facile pour quelqu'un qui ne fait que des réclamations sans en apporter de preuves, de dire, d'accuser tout le temps le PPRD. S'il était si facile pour le PPRD, même à partir de la CENI, je crois qu'il se serait arrangé pour avoir à lui seul les 250, il n'aurait pas besoin de la plate, la méga plateforme comme les FCC, rien que pour chercher à avoir la majorité parlementaire. Ça n'a pas été facile, nous-mêmes ici on n'était pas passés. On se serait dit que non, c'est notre machine, la CENI c'est notre machine, la justice c'est notre machine, j'aurais introduit aussi ma requête, parce qu'on sait qu'instrumentalisé, comme il est en train de dire, caporalisé par le PPRD. Non, je crois que c'est une façon facile d'apporter un jugement contre un processus sans entrer au fond.
Mais est-ce que le PPRD ne savait-il pas justement que tout prendre, les 250, ce serait facilement vu comme étant une préparation? Alors il fallait donner l'impression un peu qu'on a seulement quelques-uns et qu'on vienne compléter par d'autres manœuvres.
Ce processus-là, c'était une bataille et pas facile. Depuis la CENI, à la justice encore une fois, c'était une bataille très très difficile. Et moi, j'étais passé à 2006, je me rends compte que de plus en plus qu'on avance, de plus en plus ça devient difficile d'être député. Et que les soucis aujourd'hui, c'est celui de dire comment rendre ce processus peut-être plus simple. Et comment? Parce que, comme je vous dis ici, les juges de la Cour constitutionnelle, c'est les juges de l'insincérité. L'insincérité veut dire quoi? Veut dire que l'électeur a participé à ce processus à toute liberté. Il n'a pas été forcé, comme on a vu ici. Il fallait citer un nom pour être lapidé, pour ne pas avoir le droit. Il y avait des gens qui ne savaient pas s'exprimer dans certaines entités et tout ça. Le processus-là commence à partir déjà de la campagne. Et que pour que ce scrutin soit sincère, ça signifie que vraiment l'électeur s'est levé de chez lui le matin et qu'il est allé et qu'il n'a été obligé par personne.
Merci.
Ni par des menaces, il n'a été ni menacé, ni quoi que ce soit. Il a voté une seule fois. C'est ça un scrutin sincère. Merci. Et c'est comme ça que vous voyez dans des entités où il y a eu des violences, par exemple, voir un juge, lorsque le nôtre aura toutes les possibilités de contrôler ce processus à partir de la campagne, voir un juge annuler tous les scrutins d'un tel coin par rapport à tel autre.
Merci Fadna Kambere, même si en monitorant les élections, une radio comme la radio Okapi a relayé plusieurs fois des coins où les gens étaient forcés de voter pour un candidat ou même pointés avec les armes pour pouvoir le faire.
Voilà.
Willy Wenga, avocat près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, votre lecture de cet autre épisode du contentieux électoral, la justice selon vous a-t-elle été dite correctement?
Merci beaucoup, cher ami qui est sur le plateau. Je salue d'abord Ferdinand Kambere, qui est mon confrère avec notre co-débatteur.
Yves Kitumba,
oui, avec qui on a déjà été sur le plateau. Pour compte de la Mouka et moi, en technocrate, je voulais rappeler que moi, je ne me laisserai pas enliser sur le terrain des politiciens pour ou contre que la Cour, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle est devenue.
La question, moi, c'est est-ce que ce verdict ici, pouvez-vous confirmer que le droit a été cette fois dit, la justice a été dite?
En fait, pour moi, ma position est claire, c'est que les arrêts qui ont été rendus hier jusqu'au petit matin, sont des arrêts qui viennent de nous paraître comme une surprise jurisprudentielle. On sait qu'il est de principe que les arrêts à rectification d'erreurs matérielles ne changent pas le dispositif des arrêts attaqués. Mais la haute cour parle de ces arrêts d'hier soir, lesquels arrêts, moi en tant qu'avocat, m'ont porté bonheur pour avoir fait récupérer quelques clients que j'avais déjà perdus et pour avoir perdu quelques clients que j'avais déjà gagnés, mais il faut reconnaître que la Cour vient là de nous surprendre par ses arrêts, en fait que la Cour vient de créer un nouveau droit. La Cour vient de faire un revirement jurisprudentiel qui risque d'avoir des conséquences catastrophiques, même devant les autres tribunaux inférieurs. Il faut reconnaître que le temps donné à cette chambre dite spéciale, parce que le mot spécial n'est ni constitutionnel ni légal, le temps donné à cette chambre est tel que on pouvait se poser la question de savoir quel a été le temps que la chambre a eu pour arriver à rectifier les erreurs matérielles, surtout que lorsque on a suivi plusieurs requêtes, celles-ci étaient un autre contentieux, d'autres requêtes en contestation et non des requêtes en rectification, quand bien même que ces requêtes-là portaient de nombreuses rectifications. Une chose claire, c'est vrai, il faut saluer la célérité de 5 juges qui ont siégé. Et je me dis que si le rythme qu'ils ont suivi pour la rectification était le même qu'ils auraient suivi pour le contentieux principal, on ne vivrait pas ces 5 mois de calvaire. On allait vite réaliser le contentieux dans le délai de la loi.
Donc Yves Wenga, en son temps, les arguments... Willy Wenga, en son temps, les arguments avancés, parmi les arguments avancés, il y avait notamment l'argument du nombre insignifiant du personnel pour pouvoir juger. Donc, avec cette célérité, on peut dire que cette raison n'avait vraiment pas sa raison d'être.
Cette raison avait sa raison d'être, mais il faut reconnaître aussi que lorsque on a déposé des requêtes d'explication d'erreurs matérielles, les partis n'ont pas déposé beaucoup de grosses pièces comme devant le juge de la contestation. Mais ici, ce qu'il faut dire, c'est que, en tant qu'avocat, en tant que doctrinaire, en tant que penseur, en tout cas, nous avons du travail à faire avec ces arrêts, parce que ça vient tout perturber dans la réflexion de l'incidence de la requête de rectification matérielle sur les arrêts attaqués. Il est important, et là il faut noter, que beaucoup de juges risquent de mal faire la mauvaise interprétation de ces arrêts et commencer à recourir à des rectifications alors qu'il ne faut pas le faire. Il faut aussi reconnaître que ces rectifications, là on ne peut plus se leurrer. La politique a eu un effet tel que le droit vient de basculer en ce sens que lorsqu'il avait eu des pressions politiques, il a eu des validations. Lorsqu'il a eu des pressions politiques, il a eu des invalidations ou des révalidations. Et là, vraiment, pour nous, les juristes, ça nous fait peur. Parce que, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est dire que toutes les fois qu'on fera pression sur le juge, que ce soit par l'autorité publique, que ce soit par la société civile, toutes les fois qu'on fera pression sur le juge peut changer sa décision. Deuxièmement, avec le comportement de la Cour, sans le dire, la Cour vient de créer une chambre d'appel au sein d'elle. Parce que ce qui était rectification d'erreurs matérielles, ce qui était simple rectification des coquilles, des oublis, ainsi que tout de suite, devient pratiquement toute une voie de recours qui voit le juge qui a pris la décision revenir sur sa propre décision. C'est tellement grave parce que pour la première fois, nous venons de vivre une voie de recours où le juge censure son propre œuvre alors qu'il était déjà dessaisi.
Alors, Willy Wenga?
Oui.
Willy Wenga, on constate un peu comme pour les premiers arrêts, ceux-ci non plus n'ont pas été motivés. En tout cas, les motivations n'ont pas été communiquées. Est-ce que c'est normal qu'à chaque arrêt de la Cour constitutionnelle, que le public ne connaisse pas les motivations et pour ce cas aussi?
Je pense que là, il y a un problème plus technique parce que, vous voyez, on regarde le nombre des arrêts à prononcer. Lorsqu'on doit lire tout l'arrêt en ses préambules, motifs et dispositifs, en principe, ça prendrait beaucoup de temps. Moi, je considère qu'un arrêt peut être lu sur dispositif et que le parti prendra connaissance de l'intégrité de l'arrêt au niveau du greffe ou lorsque ça sera notifié. Mais ici, je reviens sur le fait que la Cour ou demain, tout à l'heure, là, j'ai suivi mon confrère Ferdinand, qui parlait de la vérité, de la sincérité, le droit commun, les droits électoraux. Donc, le droit électoral, qui a commencé en 2006 jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais vu le dispositif modifié.
Merci.
Et ce dispositif modifié, là, ça pose un sérieux problème. Parce que ce qu'on voulait être les arrêts du premier et dernier ressort ne le sont plus parce que la Cour, le même juge qui a invalidé, le même juge révalide. Le même juge qui a validé, le même juge invalide. Sur le plan de droit, je ne suis pas dans la politique, mais sur le plan de droit, ça pose un problème. Comment un juge dessaisi peut statuer sur ses propres arrêts et modifie son dispositif? Ça crée un antécédent et un précédent très fâcheux.
Merci, vous l'avez dit, Willy Wenga. Nous reviendrons à vous tout à l'heure, le temps de faire tourner la parole. Yves Kitumba n'a plus pris la parole depuis un moment. Nous allons lui donner la possibilité de rebondir. Mais avant cela, nous allons tous ensemble écouter ce commentaire qui nous vient de Bujumbura.
Maître Fils Tshipadi Kankonde, avocat au barreau du Haut-Katanga, également assistant à l'université de Likasi. Je vous appelle depuis Likasi. Je disais que j'ai salué d'abord cet arrêt par le fait que la Cour est revenue sur les erreurs, ce qui est une bonne chose. Mais d'autre part, il fallait souligner le fait que c'est en même temps un discrédit pour notre Cour si à ce niveau-là, il y a des erreurs aussi monumentales allant dans le sens d'invalider ceux-là qu'on ne pouvait pas invalider. Maintenant, que dire des autres juridictions inférieures? Parce que je suis un opérateur judiciaire, je sais de quoi je parle. Il fallait que les chefs de l'État songent à un recrutement le plus rapide des jeunes consciencieux qui pourront être soumis à des séances de civisme de haute facture afin que la magistrature puisse être redorée. Il faudra que des responsabilités soient établies, que ceux-là qui se sont compromis soient vraiment sanctionnés.
Merci. Cet auditeur, Yves Kitumba, semble aller plus ou moins dans le même sens que Willy Wenga tout à l'heure.
Oui, mais je respecte son
et
point de vue.
Et aussi un peu ce que vous avez dit.
Je respecte son point de vue, mais sauf qu'il ne faut pas mêler les présidents de la République dans la justice, parce que la justice doit rester indépendante. Ça, c'est un. De deux, je ne vois pas sa proposition à dire à M. Tshisekedi de recruter d'autres jeunes consensuels et tout ça. Ben lui-même, il est les produits de cette cour. Il est les produits de cette cour. Qu'est-ce que vous voulez? Nous parlons ici en tant que républicains. Vous savez, j'ai un souci pour notre pays. Nous ne pouvons pas accepter, nous tous comme nous sommes là, laisser les pays descendre aux enfers comme ça. Parce qu'il faut des intérêts, il faut des fonctions politiques. Et l'avenir, nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils trouveront?
Alors, au-delà, Ferdinand Kambere a dit que pour lui, hein, la Cour constitutionnelle avait aussi le statut de Cour de vérité.
Au-delà de nos appartenances politiques, c'est d'abord notre pays. Nous ne pouvons pas accepter qu'un pays comme le nôtre, où il y a des intellectuels, il y a les ressources humaines, parce qu'il y a une potentialité au-delà des potentialités de ressources naturelles, il y a les ressources humaines. On est 80 millions d'habitants. Et l'énergie de cette jeunesse se dilapide comme ça, sans travail. Parce que nous-mêmes, Congolais, nous acceptons que notre pays descende dans l'affaire.
Yves Kitumba, il y a aussi l'opinion qui s'interroge fortement. Comment, ceux qui se sentent lésés, notamment la Mouka et le MLC, comment n'avez-vous pas pu anticiper sur, entre guillemets, hein, les manœuvres qu'aurait pu préparer ou qui sont en train d'être préparées régulièrement par vos adversaires politiques?
Non, nous avons en face de nous une famille politique, je dirais, mal intentionnée. La politique, c'est un jeu républicain. Vous voyez, surtout lorsque vous avez opté pour la démocratie. La démocratie, c'est un jeu où le peuple décide les pouvoirs pour le peuple, par le peuple. Nous arrivons dans un processus chaotique, parce que nous devons entrer dans le processus électoral. On introduit la machine à voter, en violation de la loi, on publie les résultats en violation de la loi, on valide 15% de M. Tshisekedi par cette même cour, et on fait un nombre numérique de députés à l'Assemblée nationale pendant que le peuple n'a pas voté. Bref, nous avons nous-mêmes détruit notre pays.
Alors, tout à l'heure, l'émission ne va pas s'éterniser. Tout à l'heure, vous parliez justement des propositions de la MUCA et du MLC pour essayer de résoudre la solution. Je vous donne 2 minutes.
La proposition de la MUCA, c'est cette note qui a fait du bruit dans les réseaux sociaux et tout ça. C'est la proposition de la MUCA. C'est un document officiel de la MUCA.
Alors, je vous arrête un moment. Nous sommes aujourd'hui le 4 juillet 2019. Félix Tshisekedi est président de la République. Nous avons avons l'Assemblée nationale qui est installée, le Sénat qui attend de l'être. Comment fait-on pour arrêter tout ça et mettre en place votre plan de quelle manière?
C'est pas arrêté. Nous disons ceci. Nous ne voulons plus, même si les élections ne sont pas organisées de manière anticipée, on arrivera à l'échéance 2023. Nous ne voulons plus qu'en 2023 qu'il y ait encore ce genre d'erreur, des genres de problèmes. C'est ça la vérité des urnes dont nous parlons. C'est pour garantir la volonté du peuple. Nécessairement, avant d'aller aux prochaines élections, il faut réformer la chaîne du processus électoral. Nécessairement.
Et ce processus, alors, ça commence quand?
Le processus, il faut qu'il y ait des assises entre les parties prenantes. On se dit, ben voilà, au-delà de nos appartenances politiques, c'est pour le Congo. Nous reconnaissons tous que les élections ont été chaotiques, mais pour préparer l'avenir, parce que nous sommes des politiciens, mais nous avons le Congo comme base. Réformons la CENI, réformons la Cour, réformons la défense et tout ça, la gouvernance. Organisons les élections de manière transparente, de telle sorte que les prochaines élections ne soient pas contestées comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la contestation n'est pas seulement de la MUCA, la contestation est du peuple congolais. Aujourd'hui, quand vous sillonnez, vous êtes journaliste outillé, la contestation est nationale, parce que toutes les institutions sont illégitimes, en commençant par le président de la République.
Ça, c'est votre point de vue.
Non, c'est ça la réalité.
Puisque nous avons tous vu des élections être organisées.
Au-delà de la politique. Parce que lorsqu'on parle trop politique, c'est pour défendre notre camp politique. Je parle du Congo. Au-delà de nos appartenances politiques, les élections ont été chaotiques.
Alors, si je vous comprends bien, vous proposez, ça a déjà été fait par un document, mais vous nous expliquez ce soir que votre camp politique propose au président de la République, aux institutions, de pouvoir faire une table ronde, par exemple.
C'est une proposition de la République. Que nous sommes en train de travailler dans le canal diplomatique.
Vous la faites à qui? Au président de la République, aux institutions, au Parlement?
Non, lorsque vous parlez du président de la République, on personnalise les débats. Ça, c'est pour l'avenir de notre pays. Et cette proposition de sortie des crises n'est pas seulement pour le président de la République ou les députés. Non, c'est pour notre pays. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans notre pays. Vous savez, lorsque les élections sont contestées, on a difficile à décoller. Et aujourd'hui, je vous dis, M. Tshisekedi, on peut lui donner des mandats. S'il triche encore le deuxième mandat, il ne fera rien. Et aujourd'hui, avec son partenaire, ils ne feront rien. Je mets quiconque à défi.
Alors, je vous ai laissé le temps de clairer cela, mais est-ce que ça signifie que les arrêts rendus dernièrement par la Cour et qui seront envoyés, dont la liste sera envoyée au Sénat, à la CENI plutôt, pour vous, vous considérez ça comme inexistant, ou vous prenez acte, vous allez désormais faire une opposition républicaine tout en donnant votre plan de sortie de crise?
Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes restés sur la ligne de notre contestation. Nous sommes restés sur la ligne de la MUCA. Nous ne sommes pas encore sortis de cette ligne. Nous sommes là. En tant que républicains, le respect des institutions, le respect des textes nous oblige à nous conformer à ce qui se passe de manière tout à fait de fait. Comprenez? Non, mais ce qui nous concerne, nous restons dans la ligne de la MUCA, nous restons dans la ligne de contestation. Nous voulons que la vérité éclate.
Les élus de la MUCA vont-ils continuer à siéger, notamment au sein du Parlement, à l'Assemblée nationale au Sénat?
La mesure n'a pas encore été levée.
Merci, Vaikitumba. Ferdinand Kambere, vous allez à votre tour reprendre la parole, mais avant cela, nous allons écouter cette réflexion qui nous vient de Bukavu.
Isaac Bampori qui de Bukavu au sud de Kivu. Rien ne s'est fait sans pression dans ce pays. Si la Cour constitutionnelle s'est ravisée, c'est parce qu'il y a eu des réactions qui l'ont fait sentir qu'elle doit faire attention avec son penchant habituel d'abuser du fait que ses arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours, car lorsque le peuple se libère à sa manière, il pose des actes qui ne sont susceptibles d'aucune réparation. Ainsi, la lutte du peuple congolais qui, ces dernières années, développe de plus en plus la vertu de braver la peur, va continuer jusqu'à ce que la vraie démocratie règne.
Ferdinand Kambere.
Bon, je ne laisserai pas mon co-débatteur continuer à dire que le président de la République, c'est un président de fait. Faut pas dire une chose et son contraire. Vous appelez les élections chaotiques, mais c'est de ces élections que vous voulez réclamer la vérité des urnes. Vous contestez la machine, vous dites qu'elle est illégale, mais votre combat pour la vérité des urnes, vous l'attirez de quoi? Et aujourd'hui, vous vous attaquez, vous critiquez comme vous voulez, chacun peut le faire, mais moi je suis un avocat en même temps. Je ne le fais pas de n'importe quelle manière. Parce que j'ai prêté mon serment d'avocat devant la cour et que donc je dois, moi, respecter ce qui est dit comme la vérité judiciaire. Dès qu'elle sort, tout le monde doit s'incliner. Et c'est à cela que tout le monde attend aujourd'hui l'arrêt définitif. Ça nous permettra d'avoir nos institutions stables. Je respecte bien mon aîné, Maître Willy. Son jugement, lui, a été peut-être dans le processus, il était sur les bancs en train de plaider pour ou contre par rapport à celui-là, par rapport à tel autre. Mais moi, je ne critique pas un arrêt sans l'avoir sous mes yeux, sans l'avoir lu, sans l'avoir analysé, voir les raisonnements du juge pour qu'il aboutisse à telle conclusion, à tel dispositif, quels étaient les raisonnements du juge.
Alors, en fait, Nathan
il dit
Biré,
que
nous reconnaissons
je suis
tous,
d'accord, ouais, que je suis d'accord avec lui qui, lorsqu'il parle, dit revirement jurisprudentiel. Il ajoute même dangereux. Mais ça, c'est un processus électoral. C'est pour un mandat de 5 ans. Si il est prévu que dans cette chaîne du processus électoral, il y a un temps où la CENI se prononce et que la volonté du constituant veut que ce soit des résultats provisoires. C'est parce qu'on sait aussi que la CENI, c'est des humains, ils peuvent commettre des erreurs, intentionnelles ou pas. Et que maintenant, après la CENI, on se réfère au juge qui dira les derniers mots. Et que cela, on est ouvert un temps pour la rectification des erreurs matérielles. Et que maintenant, comme vous avez dit, la motivation est ceci. Moi, j'ai pas encore lié un seul arrêt pour critiquer juridiquement cet arrêt, mais moi je me dis on est en train d'achever un processus électoral parce qu'il faut qu'il s'achève. On attendait qu'il soit achevé dans 2 mois, mais la Cour a expliqué que matériellement c'était impossible, mais il faut que ce processus s'arrête. Mais après, si toutes ces réformes seront mises à place, j'attends déjà revendiquer d'être président d'un organe, c'est pas moi, c'est quoi, haut conseil, c'est pas moi quoi, des réformes institutionnelles. Encore une fois, des politiciens. Un politicien qui dit qu'il est en train de revendiquer la vérité des îles, qui veut être président d'un tel conseil qui va, comme ça, proposer à la République des réformes. Encore une fois, une erreur. Où sont les experts? À un moment donné, moi je pense que s'il faut repenser les processus, il faut qu'à un moment donné, que ça soit un travail d'experts, que ça vienne de nos universités, que des gens sans intention derrière leur tête essaient de lire correctement toute la loi électorale par rapport à ce que, parce que quand on parle de la sincérité des scrutins, comme j'ai dit, on doit pouvoir contrôler à partir de la campagne qui ont menti sur les autres, qui ont calomnié les autres. Le processus était transparent, était libre, était ceci, jusqu'à la Cour. C'est ça. Et permettre à ce que la Cour ait le temps d'aller contrôler ce processus à partir d'en bas.
Merci.
Ce n'est pas un problème d'ange ici.
Merci.
Il faut relire nos lois, il
Merci.
Faut relire nos textes
Merci.
Et voir où ça accrochait. On
Merci.
Améliore. Mais il n'y avait pas d'élection chaotique ici.
Merci.
Il y a eu des erreurs. Quelles sont les élections qui ne sont pas contestées au monde?
Merci.
Jusque-là, Trump est toujours au pouvoir.
Merci, Ferdinand Kamere. Nous vous redonnons la parole pour dire votre dernier mot.
Ça, c'est
mot
notre Congo.
Dans
donc,
cette émission.
On doit pouvoir avoir la même lecture pour que nous ayons des institutions. C'est juste pour 5 ans. Après 5 ans, il faut qu'on continue.
Merci,
voilà.
Ferdinand Kamere. Nous allons redonner la parole à Willy Wenga après qu'on ait écouté Jacques Bifonga.
Je m'appelle Jacques Bifonga, Malomalo, depuis Sangui, province de la Tchop. comme les anciens, les nouveaux arrêts de la Cour constitutionnelle si les résultats des élections législatives nationales sont inféodés et instrumentalisés. La Cour n'a pas pu travailler avec toute indépendance. Par contre, elle a travaillé d'une part sous un mot d'ordre déjà inconnu et d'autre part sous pression et pression extérieure qu'elle a réussi en invalidant illogiquement les députés élus. Comment peut-on comprendre que la Cour rectifie et revient sur ses arrêts en raison tout simplement qu'il y a une erreur matérielle et du le caractère irrévocable et irréprochable des arrêts de la Cour? À mon avis, les résultats définitifs qu'elle va publier ne seront pas les vrais résultats ici des urnes.
Willy Wenga, peut-on encore dire aujourd'hui, peut-on encore réclamer le caractère irrévocable des arrêts de la Cour constitutionnelle?
Je pense que la Cour elle-même vient de consacrer la révocabilité de ces arrêts. La Constitution, ainsi que la loi qui organise la Cour constitutionnelle, dit expressément que les arrêts de la Cour sont inattaquables, sont rendus au premier dernier ressort, il ne peut pas faire objet de discussion ni d'un débat au Parlement. Mais lorsque la Cour elle-même, juridiquement parlant, se constitue en premier et dernier ressort, le premier ressort, c'est le contentieux principal, et le deuxième ressort, c'est la correction des erreurs matérielles, la Cour elle-même, excuse-moi le terme, a piétiné le principe d'irrévocabilité de ces arrêts et le caractère de premier dernier ressort des 10 arrêts. Vous savez que la Cour pénale internationale a deux chambres à son sein, la chambre de première instance et la chambre d'appel. Le tribunal pour enfants ont la première chambre et la chambre d'appel. Si la Cour constitutionnelle, par ses arrêts, elle vient de consacrer le double degré de juridiction à son sein, tant mieux, la loi qui viendra suivra pour matérialiser cela. Afin que, monsieur le journaliste, je dis bon gré, mal gré.
On peut encore revenir, il peut y avoir.
Oui, on a terminé votre idée.
Oui, ce que je disais tout à l'heure, moi je n'interviens pas sur le plan politique comme mes deux co-débatteurs qui sont politiciens.
Willy Wenga, vous l'avez dit, une dernière question. Oui, nous sommes en train de conclure. En 10 secondes, s'il vous plaît, selon vous.
Il ne faut pas me donner moins de temps que les amis politiciens, parce qu'à ce moment-là, je serais comme si je les accompagnais sur le plateau.
Oui.
Alors qu'il faut préciser une chose.
Allez-y, 30 secondes, s'il vous plaît. L'émission doit s'arrêter.
La Cour constitutionnelle, par ses arrêts en rectification d'erreurs matérielles, siégeant à 5 juges, s'est comporté comme une juridiction d'appel, avec comme mission de réformer les arrêts rendus par les 3 juges.
Merci Willy Wenga, vous avez déjà dit cette idée plusieurs fois. Juste avant de repasser la parole pour conclure à Ferdinand Kambere, Yves Kitumba, pour vous, le caractère irrévocable de la Cour est tombé ou pas?
La nécessité des réformes, parce que lorsqu'on donne trop de pouvoir aussi à cette Cour, c'est ce qui nous a amené à ce genre de dérives. Nous devons repenser notre processus électoral. Et aujourd'hui, la Cour, vous êtes conscient que la Cour s'est rébuffée. La Cour a rendu des arrêts en dehors d'abord de délai légal. Et puis après, il change ses arrêts, ses propres arrêts. Il revient. Bon, voilà.
Merci. Ferdinand Kambere.
Oui, je voulais simplement, en rapport avec l'autre, que si cet arrêt, on peut considérer que c'est un revirement jurisprudentiel, mais la jurisprudence est une source. Un seul arrêt pour ce seul processus électoral ne constituera pas une source à lui seul.
Merci.
Pour que ce soit une source, il faut qu'un tel arrêt ait deux, dans trois, quatre processus.
Merci.
Un juge peut encore revenir dans
Merci.
L'autre processus.
Merci.
Je crois que les Congolais doivent avoir espoir
Merci.
Dans les institutions qui les dirigent.
Merci. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie.